Les archivistes du silence, chapitre 1, balançoire du soir, l'histoire. Ça va sans doute vous paraître un peu étrange, mais c'est comme ça. Le début de cette histoire commence avec ma première escapade. À la tombée d'un jour sans vent, je m'étais aventuré, par curiosité, dans le parc, situé juste en face de la maison de ma maîtresse. Lisa Blanche, qu'elle s'appelle. C'est marqué en gros sur sa boîte aux lettres. À l'époque, je n'étais encore qu'une toute petite chatonne poivre et sel, bien qu'on dise plutôt gris moucheté blanc pour les chats. Et je répondais, plus ou moins bien, c'est vrai, au nom de Toulouse. Au premier abord, le parc semblait désert, comme souvent à cette heure-là. Mais je venais d'entendre un grincement étrange et régulier qui m'attira. Après un long périple avec mes toutes petites pattes dans la jungle du parc, je me retrouvais face à deux jeunes êtres humains en train d'observer en silence un phénomène extraordinaire. Une balançoire qui chavirait en couinant d'avant en arrière. D'avant en arrière. Mais avec personne dessus, et personne qui poussait, et pas le moindre souffle de vent alentour. Oh ouais, c'était magique. Et je me souviens de nos trois têtes qui suivaient ces allers-retours inexplicables. On aurait facilement pu nous prendre pour les supporters attentifs d'un match de ping-pong invisible. De longues minutes passèrent, quand, au loin, je commençais à entendre Lisa qui criait « Toulouse ! Toulouse !» Elle finit par nous rejoindre. Son arrivée fit très peur à mes nouveaux amis qui s'enfuirent aussi sec vers le fond du parc. Je ne sais plus vraiment pourquoi, mais je les ai suivis à toute berzingue, sans réfléchir. Lisa nous courut après et traversa comme nous la rangée de cyprès qui ressemble à des longues plumes vertes qui chatouillent le ciel et délimitent le parc. C'est là, derrière, que les jeunes habitaient, planqué dans un recoin du terrain vague. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur nom n'était pas écrit en gros sur une boîte aux lettres. C'était juste une tente. Un visage de maman paniquée en sortie. Oh, ça ne sentait pas le tourisme. Oh, ça non. Plutôt la fuite. Plutôt l'exil. Le visage de Lisa glissa vers le pâle, comme si du plâtre s'était subitement mis à lui couler dans les veines. Je courus me blottir dans ses bras pour la câliner. Le jeune garçon essaya bien de lui dire des mots. « Nan la heun walakin la daina sadik bialgorp min hena » Mais ces mots pétillaient dans une langue qu'elle n'avait encore jamais entendue. Ce qu'elle réussit juste à comprendre, c'est qu'elle ne devait dire à personne qu'elle avait vu leur tante. Un doigt sur la bouche n'est-il pas le signe international du silence ou du secret? Bon, ce n'est pas sûr. En tout cas, avec ses mains, la maman paniquée nous dit de partir. Lisa, pour lui répondre, mit ses mains sur son cœur en fermant les yeux. Et je crois qu'en humain, ça veut dire qu'on peut nous faire confiance. Et puis, nous sommes rentrés à la maison. Lisa était tellement secouée par tous ces événements qu'elle oublia même de me gronder pour ma fugue. Ça, c'était bien. Mais ce soir-là, elle se retourna encore plus que d'habitude dans son lit. Et il s'en est fallu de peu qu'elle m'aplatisse sous son coussin, comme une pizza il n'y a plus de saison. Et ça, c'était moins bien. Le lendemain, dès Potron miné, ou aux premières lueurs du jour, si vous préférez, elle retourna au parc, avec moi dans son sac à main, la tête qui dépassait. Un peu comme celle de la maman paniquée dans la tente hier soir. Les enfants étaient déjà là, à la balançoire, complètement immobile qu'elle était à présent. Enfin, pas tout à fait. Une sorte de respiration profonde et harmonieuse semblait chatouiller les cordes. Les yeux des enfants étaient plongés à quelques centimètres de la planche, comme si une histoire passionnante était écrite dessus. Comme si la rosée du matin dont elle était recouverte leur permettait de voir quelque chose d'invisible à l'œil nu. Le jeune garçon fit signe à Lisa de s'approcher. Elle se pencha, le nez collé à une des gouttes. Et là, waouh ! Elle eut l'impression de voir des centaines, des milliers de minuscules sacs d'aspirateurs en papier craft en train de discuter avec leurs trompes, avec leurs pattes. Pour y voir encore plus clair, la jeune fille, qui, autant le dire tout de suite, me donnait l'impression d'être aussi sourde que muette, eut l'idée géniale de réunir les gouttes avec l'élastique jaune qui lui servait à s'attacher les cheveux, et on peut dire que ça a vraiment bien marché, sa loupe mouillée. Parce que même moi, j'ai tout vu. J'y ai même trempé mes moustaches sans faire exprès. C'est donc là que s'est passée ma première rencontre avec les tardigrades. Et ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est au premier coup d'œil que j'ai compris que ce qu'il se passait là, devant nos yeux, c'était une rencontre intergalactique. Je veux dire qu'il y avait sur cette petite planche humide des mini-bestioles d'ici, enfin habitant sur la Terre, qui avaient des cousines éloignées, très éloignées, mais genre à des millions de kilomètres d'ici, qui étaient venues jusque sur notre planète pour faire un truc plus ou moins précis. Quoi, ça pour l'instant, ça nous échappait. Peut-être quelque chose qui ressemblait à un séjour scolaire d'échange linguistique, mais entre animaux minuscules. Et c'est à ce moment précis que Magali, notre voisine archiviste à la retraite, est apparue dans l'histoire avec Zoé, sa petite fille de 8 ans à ses côtés. Cette fois, les enfants n'eurent pas peur des inconnus. Les vibrations qui transformaient cette balançoire en une espèce de harpe à deux cordes ne devaient pas y être pour rien. Ce qui est bien avec Magali, c'est qu'elle a beaucoup voyagé, beaucoup, dans une de ses autres vies d'avant. C'est bien simple, elle parle autant de langues qu'elle a de doigts dans ses deux mains. Et ça n'a pas manqué, elle a entendu « Inna abla yasada ». Veuillez bien excuser ma prononciation. Juste quelques mots que murmura le garçon et qui veulent dire « C'est incroyable !» Aussitôt, une longue conversation entre Magali et lui s'engagea. Et comme Lisa avait une avalanche de questions à lui poser aussi, ça a pris pas mal de temps. En tout cas, voilà ce que j'ai compris de mon côté. Lui, il s'appelle Charbel. Sa sœur, c'est Alissar. Et sa maman, Wafa. Le papa, il est mort. Mais tellement mort que Charbel n'a pas réussi à dire son nom. Il n'a pas réussi à faire passer ce nom-là par la frontière de sa bouche. À Lissard, j'avais bien deviné. Elle est sourde et muette. Pour tous les noms. Pour tous les mots. L'explosion qui en est la cause, ça non, je ne l'avais pas deviné. De là où ils viennent, il y en a presque tous les jours. Ils arrivent de Syrie. Mais pas la Syrie où l'on coupe les planches pour fabriquer les sièges de balançoire, hein. Non, 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 non. La Syrie où l'on coupe la parole en tout petits morceaux quand on ne pense pas comme il faut. Là, ils sont sur la route de Dieu le Fit pour tenter de rejoindre un ami syrien. Ça fait 6 mois qu'ils sont sur les routes. Enfin, sur le bas-côté de la route. Et elles ont fui là-bas et continuent de fuir ici. Et ça, j'ai bien du mal à le comprendre. Heureusement, Lisa a expliqué qu'elle y a réfléchi cette nuit et qu'elle peut les accueillir, chez elle, juste en face du parc. En plus, depuis que son mari est en prison, bon, de lui je vous en parlerai plus tard. Elle a de la place, beaucoup trop de place, dans sa maison. Elle était prête à les accueillir dès cette nuit pour ne pas qu'elle se fasse repérer. Et le petit groupe marqua un silence. Ou plutôt, remarqua que ses conversations étaient en train de se faire engloutir tout doucement. Non seulement les mots qu'elle prononçait, mais aussi le son des cordes de la balançoire, mais aussi le son de leurs pas dans l'herbe, du rossignol dans l'arbre. Même mes tout mignons miaulements de faim se faisaient aspirer dans l'air, comme si l'espace de la balançoire se mettait à avaler les sons. Comme si les tardigrades sur la planche se transformaient en éponges acoustiques. Et elles se donnèrent rendez-vous ici même, à la nuit tombée, en langue des mains. Et la suite est dans le prochain chapitre, comme on dit chez les humains.